À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Friction, émission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez sur Divergence FM. Eh bien, bonsoir à vous, bonsoir Alain.
Bonsoir Jean, bonsoir tout le monde.
Alors, ce soir, on va parler de Moebius,
oui.
Un album de Moebius qui a pour titre...
Le garage hermétique de Jerry Cornelius, tout un programme.
Tout un programme. Alors, Moebius... Est-ce qu'on le présente encore?
Bon, je pense que tout le monde connaît un peu Moebius, de son vrai nom Jean Giraud, qui est aussi l'auteur de Blueberry. Je pense qu'effectivement, il est le fondateur du journal Metal Hurlant. Voilà, je pense que tout le monde sait à peu près qui c'est, oui.
D'accord. Alors, peut-être que tout le monde sait qui est Moebius, mais cet album, quand même, il est très particulier.
Et oui, c'est un album qui, a priori, n'aurait jamais dû exister. Hein, puisqu'en fait, Moebius dessine deux pages comme ça pour se délasser de ses autres travaux, en particulier Blueberry, qui lui prend beaucoup de temps. Et il y a un titre, il y avait marqué premier épisode avec même un sous-titre. Le titre donc c'est Garage Hermétique de Jerry Cornelius. Mais voilà, dans son esprit, c'est deux planches comme ça qui n'auront pas de suite quoi. Mais Jean-Pierre Dionnet, sans rien dire à personne et surtout pas à Giraud, publie ces deux pages dans Metal Hurlant, le numéro 6 de Metal Hurlant. Et mis devant le fait accompli, Moebius décide de continuer l'histoire qu'il n'avait absolument pas prévue et de faire au moins deux pages dans chaque numéro à venir de Metal Hurlant. Et ça dure comme ça, du numéro 6 au numéro, j'avais noté ça quelque part, au numéro 41, hein, ça dure 4 ans. Et il finit par construire tout un récit, toute une histoire, tout un univers, à créer tout un univers très, très singulier, très particulier.
Alors c'est une sacrée contrainte parce que, en fait, ce que raconte Moebius, c'est qu'il ne se souvient pas en fait, des pages qu'il a données.
Au fur et à mesure, surtout qu'au début, la revue était trimestrielle. Enfin, à partir du numéro 7, ça passe bimestriel. Mais donc, sur deux mois, il avait le temps d'oublier, effectivement, ce qu'il avait fait. Et à partir du numéro 9, ça devient mensuel. Donc, c'est un peu plus rapproché.
Voilà, c'est plus facile.
Ben, c'est plus facile, ouais. Mais effectivement,
il s'est senti un peu piégé, un peu perdu.
Et puis des fois, il disait, j'y suis freiné au dernier moment. Et il faisait ça en une nuit, en improvisant totalement. Sans trop savoir ce que ça allait donner, et voilà, ça a donné ce magnifique album qui est le garage de Jerry Cornelius, le garage hermétique.
Garage hermétique, alors on va parler un petit peu du titre, on va essayer de comprendre pourquoi il appelait ça le garage hermétique. En tout cas, cette contrainte, elle est intéressante parce que, en fait, c'est ce qu'il raconte, entre autres aussi Moebius, dans l'introduction de l'album. Cette contrainte va l'obliger, en fait, à inventer des choses, créer.
À créer non seulement du point de vue narratif, hein, du point de vue du récit, mais aussi du point de vue graphique et du point de vue de la mise en page et de l'organisation de l'organisation du récit lui-même, hein, qui est découpé en petits chapitres de 2 à 4 ou 6 pages, ça dépend des fois s'il était plus ou moins inspiré. Et ça donne un rythme très particulier aussi au récit, cette façon de répéter le titre, puisqu'à chaque nouvel épisode, le titre réapparaît. Le garage hermétique de Jerry Cornelius, écrit sur différentes façons, avec différentes formes, avec des jeux des fois, sur le titre lui-même qu'il déforme ou transforme. Enfin. Et donc cette répétition donne tout un espèce de rythme qui met toujours le lecteur un peu à distance de ce qui se raconte. On n'est jamais complètement dans le flux du récit, quoi. Avec ce genre de procédé.
Oui, il y a ces coupures qu'il va falloir en quelque sorte recoudre. Hein. Il y a cette idée que c'est ce qu'il raconte dans son introduction. Il dit qu'il a tout le travail, c'était de recoudre pour que ça ait que ça soit cohérent.
Oui, mais en même temps, les coutures sont visibles. Hein.
Alors voilà.
C'est vraiment le travail aussi là du rhapsode. Hein. C'est chez les Grecs qui rassemblait des textes avec des coutures, mais en laissant la trace de la couture elle-même. Quoi.
Ouais.
D'autant plus qu'à chaque fois, il y a aussi un résumé des épisodes précédents. Il y aura même un chapitre où il y aura non seulement des résumés des épisodes présents, mais un résumé des épisodes futurs. Ah. Donc, Moebius joue beaucoup avec ce genre de contraintes et ce genre d'image.
Alors, ça fait penser ce type de contrainte à un mouvement dans la littérature qui s'appelle l'Oulipo, l'ouvreur de littérature potentielle.
Potentielle, oui. Parce que ça existe en bande dessinée, ça s'appelle Loubapo.
Loubapo, d'accord.
Oui, d'accord. Tout à fait. Hein? Dont les fondateurs sont des gens de l'association, comme Trondheim, les Croires et quelques autres.
D'accord. Loubapo.
Loubapo, oui, d'accord, tout à fait.
Bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Il y a même 3 ou 4 bouquins qui recueillent des exercices d'Oubapo qui existent. Ça s'appelle Loubapo 1, Loubapo 2, etc.
D'accord.
Il doit y en avoir 4.
Et donc, ça suit le même principe que l'Oulipo.
Tout à fait, oui.
Il s'impose des contraintes.
Il s'impose des contraintes. Alors, des contraintes qui peuvent se jouer tout seul ou qui peuvent se jouer à deux ou à plusieurs dessinateurs, ça dépend.
D'accord. Alors, on revient sur le garage hermétique. Qu'est-ce que ça nous raconte, en fait, ce garage hermétique ?
Eh bien, au début, on ne sait pas trop bien ce que ça raconte, justement, comme c'est un récit qui est improvisé, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. Enfin, au début, ça commence sur une espèce de scène assez anecdotique, un ingénieur qui bricole une machine.
L'ingénieur Barnier.
L'ingénieur Barnier, qui bricole ce qu'il appelle un câbleur. On ne sait pas très bien ce que c'est que le câbleur, on ne le saura jamais, d'ailleurs.
Oui.
Et au cours de cette réparation, en fait, il détruit l'appareil c'est un accident, hein, par inadvertance. Enfin, il fait une fausse manœuvre qui détruit l'appareil et pris de panique.
Il s'enfuit.
Il s'enfuit, voilà.
Parce qu'il a peur.
Il a peur de Jerry Cornelius qui lui a demandé justement de mettre au point cet appareil. Et donc, il s'enfuit. Voilà, ça commence comme ça. D'ailleurs, je crois que dans l'épisode 2, on nous dit que l'ingénieur Barnier est bien embêté.
Oui, il est bien embêté. Et déjà, d'entrée de jeu, ça pose la tension que Moebius veut
installer.
Mm-hmm. Hein, puisque, en fait, Barnier a peur
de
Jerry Cornelius. Et ils disent sa vengeance va être terrible. Et donc, on voit bien que s'il a peur à ce point, et le récit va nous apprendre que Barnier, en voulant s'évader, va tuer un gardien pour pouvoir partir, c'est que ça doit être assez, assez terrible. Donc, le personnage qui va arriver, Jerry Cornelius, il a déjà, en quelque sorte, une réputation qui le précède.
Oui, avant même qu'on le rencontre. Hein.
Donc, d'entrée de jeu, en quelque sorte, Moebius nous dit, voilà, il va y avoir un personnage qui va être assez effrayant, qui va arriver, et attendez-vous à ce que ce personnage soit particulièrement violent, on peut tout imaginer en fait.
Ouais, ce qui ne sera finalement pas tout à fait le cas.
Pas du tout.
Ouais. Ouais.
C'est là où en fait Moebius...
Il joue avec les codes.
Il joue avec les codes et puis aussi il joue avec nos peurs, nos fantasmes, notre imaginaire, et en laissant ouvert toutes les interprétations possibles. Mmh. On va revenir sur ça. En tout cas, ici, il y a cet ingénieur Barnier qui s'enfuit de ce garage hermétique.
Enfin non, là, c'est un garage dans le garage hermétique, en fait.
Un garage dans le garage hermétique. Et finalement, qu'est-ce qui se passe
Qu'est-ce qui se passe dans
l'histoire?
Eh bien, apparemment, il y a plusieurs choses qui se passent. Apparemment, cette histoire de câbleur a l'air d'être centrale dans l'histoire. Et cela va commencer à intriguer le Major Gruber, qui va être en fait le personnage principal du récit. Major Gruber qui apparaît en fait au 3e épisode, alors qui s'est imposé en fait à Moebius, parce que Moebius n'avait pas du tout prévu d'utiliser ce personnage qu'il avait déjà utilisé dans d'autres petits récits. Et ce personnage va s'imposer et devenir vraiment le personnage central du récit, quoi, qui est même... c'est assez curieux, il y a toute une évolution de ce personnage. Au début, Major Gruber, dans la plupart des petites histoires qu'il a pu faire avec celui-ci, est un personnage assez peu sympathique, plutôt colonialiste, un peu raciste, etc. Et là, il va en faire un personnage plutôt légendaire, quasiment mythique, une espèce de démiurge même, puisqu'on apprendra que c'est lui qui a créé le garage hermétique. Et donc tout le monde court après ce fameux Barnier. Jerry Cornelius aussi recherche Barnier. Hein, il donne à son fidèle, comment il s'appelle, Jaffer, je crois, son fidèle Jaffer, avec lequel il communique là.
Oui.
D'aller le chercher dans les cavernes de Chantantes, qui se trouve sûrement là-bas. Et voilà, donc Barnier se retrouve plus ou moins traqué. On ne sait pas trop pourquoi, mais on finira par se faire une petite idée de sur la question.
Alors Alain,
oui.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ?
Eh bien, c'est un morceau de Sun Ra, ça s'appelle Space is the Place. Voilà, c'était à propos donc, du jazz, hein, parce que c'est, comment il s'appelle, Moebius qui raconte à propos de la différence entre Jean Giraud, donc le dessinateur de Blueberry, et Moebius. Il dit, Jean Giraud, c'est mon côté cartésien, appliqué, perfectionniste. Moebius, c'est un solo de jazz, l'improvisation totale, la liberté de dessiner une case sans savoir ce qui va suivre. Giraud a besoin d'un cadre, Moebius travaille main dans la main avec son inconscient.
D'accord. Oui. Donc il faut pour nos auditeurs leur redire, parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais que Giraud et Moebius, c'est la même personne.
Tout à fait. Hein? Oui.
Mais l'un qui travaille de manière, tu disais, il disait
cartésienne,
et l'autre qui est vraiment voilà, de manière freudienne, on va dire.
Tout à fait, qui laisse son esprit vagabonder.
Qui libère en fait ses fantasmes, etc. Oui. Pour ceux qui ont lu, comme nous, Blueberry, et après ce qu'a pu faire ensuite Moebius,
le Garage Hermétique, Arzac,
si on ne nous dit pas que c'est le même dessinateur, c'est quand même difficile à imaginer.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a encore, quand je leur dis, ils sont surpris, oui. Ouais.
Il y a encore des... Après, il y a des images où on voit que le trait qu'ils pouvaient avoir dans les Blueberry...
Oui, surtout sur les derniers Blueberry sont vraiment très, enfin, dessinés un peu à la Moebius, quoi. Hein. Ouais. Ça, c'est clair, surtout à partir de, je pense, de toute la saga sur la Longue Marche, la Tribu Fantôme, etc., et jusqu'à la fin. L'impact Moebius est très net.
Mais même dans les albums de Moebius, quand il fait des portraits, etc., il y a des moments où on peut retrouver son graphisme qu'il a dans Blueberry.
Bah, notamment dans le garage hermétique de Jerry Cornelius, il y a un passage où on se retrouve dans une espèce de western un peu étrange, et ça ressemble effectivement un peu à du Blueberry.
Voilà, de manière parodiée, bien sûr.
Oui, tout à fait.
De manière parodiée. Mais en effet, on voit que ça interfère quand même.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, Alain. Ce garage hermétique, on était sur le major Gruber qui intervient dans l'histoire. Mm-hmm. Et en fait, ce qu'on essayait de dire, c'est que il y a trois histoires, en fait.
Il y a trois fils, oui.
Trois fils.
Il y a l'histoire de Barnier, donc, qui cherche à fuir Jerry Cornelius.
Voilà. La vengeance de Jerry Cornelius.
La vengeance de Jerry Cornelius, tout à fait. Il y a Jerry Cornelius qui cherche, lui, à s'emparer du garage hermétique. C'est apparemment son objectif, hein, s'emparer de cet univers-là. Il s'oppose donc au Major Gruber. Et le Major Gruber, lui, qui est donc le démiurge, le créateur du
garage hermétique.
Garage, voilà, qui est un monde sur trois niveaux, on apprendra qu'il y a trois niveaux. Et qui descend dans le garage pour savoir un peu ce qui se passe, prendre la température, parce qu'apparemment, il y a des espèces de. Plus ou moins des mouvements de révolte, puisqu'on apprendra aussi qu'il y a un mouvement séparatiste qui cherche à se débarrasser et de Gruber et de Jack Cornelius à devenir indépendant.
Oui, alors c'est assez troublant parce qu'en fait tous ces univers se superposent mais malgré tout on nous parle de trois niveaux. Mm-hmm. Hein, il y aurait trois niveaux. C'est quoi en fait ces trois niveaux? Parce que quand on lit, alors évidemment au fur et à mesure il invente.
Hein, puisque, oui, il crée son univers au fur et à mesure.
Au fur et à mesure.
Il le découvre au fur et à mesure.
Donc ça c'est assez extraordinaire parce qu'on se dit que il sait pas encore ce qu'il va faire, hein, puisqu'à chaque fois il va devoir inventer donc la suite. Hein. Mais il est censé y avoir trois niveaux.
Ouais. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on commence par le niveau numéro 3 où est envoyé l'espion Sam avec cette espèce de robot géant qui ressemble un peu au fantôme du Bengale. Et ça, on est au troisième niveau. Et ensuite, il passera au second niveau où il sera assassiné d'ailleurs dans une espèce de bar. Hein,
oui,
où on découvrira aussi que c'est un androïde, hein, que c'est pas vraiment un humain, c'est une réplique d'un humain. Et il y a le premier niveau qui est un niveau qui est à la fois le niveau des machines, le niveau donc qui permettent la création de cet univers et qui permettent la vie de cet univers, et qui est aussi le niveau, on va dire, un peu paradisiaque, puisqu'il y a une espèce de jardin d'Éden qui a été créé par une femme qui a connu le Major Gruber. On l'apprendra.
Donc c'est une espèce de descente, mais inversée, en fait. Ce n'est pas une descente aux enfers, c'est une descente au paradis.
Le premier niveau, qui est un niveau double, et le niveau des machines, on pourrait peut-être presque dire c'est un niveau dangereux.
Dangereux.
Donc ça pourrait être effectivement aussi un enfer, mais en parallèle, au même niveau, il y a cette espèce de monde paradisiaque.
Oui, parce qu'on part quand même sur l'ingénieur Barnier qui s'enfuit, et ils sont au troisième niveau, là. Ensuite, on va avoir donc l'espion Moad et sa compagne.
Sa compagne, oui. Hein,
et eux, ils vont se retrouver là encore au troisième niveau. Et
ils viennent du troisième niveau, mais quand il est assassiné, ils sont au second niveau.
Et là, ils seront au second niveau. Mais tout le début, en quelque sorte, hein, c'est ce que Moebius appelle la région plate des steppes.
Oui, où circule le véhicule de Jerry Cornelius, là.
Voilà. Et c'est là où on voit le moyen de transport en fait de ce personnage de Moad, en fait, qui est un robot.
Oui, c'est une espèce de robot géant, un peu à la Goldorak, sauf qu'il ressemble, je te dis, au fantôme du Bengale de Phil Davis, et je me rappelle plus du nom du dessinateur, mais enfin
d'accord.
Bref. Et d'ailleurs, à un moment, il file un coup de poing à un pilleur de tombe, là, et il a la marque de la tête de mort, comme dans la bande dessinée, justement, du fantôme. Quand il a une espèce de bague avec tête de mort, et quand il frappe quelqu'un, ça le marque au visage.
Et donc, nous, quand on lit le récit, on pense pas du tout à ce que c'est un robot.
Non, enfin,
on va le découvrir par la suite.
On le découvre assez rapidement quand même, hein, parce que on aperçoit qu'il y a quand même deux voix qui sortent de la tête du robot.
Oui, alors ça oui. Alors il y a les deux voix, mais ensuite on va découvrir quand il va se faire tuer que lui-même Sam
est lui-même un androïde.
Et lui-même un androïde, un robot lui aussi. Oui, en quelque sorte, c'est un robot dans un robot. Mmh. Il aime bien Sam Moebius. Hein,
les mises en abîme.
Les mises en abîme. Alors Alain, qu'est-ce qu'on vient d'écouter là ?
Eh bien, c'était un morceau de Jimi Hendrix, First Stone from the Sun. Il faut savoir que Moebius a dessiné des pochettes pour des rééditions d'albums de Jimi Hendrix.
D'accord. Et la traduction pour le titre ?
Ah, troisième pierre après le soleil.
C'est-à-dire ?
La terre.
D'accord. Le troisième caillou.
C'est ça, le troisième, flottant dans l'univers immense.
Donc en effet, avec Moebius, on est dans l'espace. Alors... ce qui est, si vous voulez, assez, assez troublant, hein, ce qui est, c'est que ce personnage du Major Gruber, mais pas seulement, aussi Barnier, mais on peut penser à tous ces personnages, même Jerry Cornelius, ils sont pris dans ce récit, dans des espèces de dédales, de labyrinthes.
C'est un labyrinthe.
Hein, et ça revient dans le récit, cette situation dans laquelle ils disent eux-mêmes qu'ils sont perdus. Ils sont perdus.
Mm-hmm.
Hein, et en fait.
En même temps, le Major Gruber a l'air de savoir très bien où il veut aller. Hein.
Ouais. C'est à cause de la pointe de son casque.
Oui, et puis il a vraiment un objectif. Hein. Il sait qu'il doit aller justement dans le haut premier niveau, dans le monde des machines, parce que comme il le dit, il soupçonne que ça se passe là, quoi, que le problème est là.
Mais en même temps, à un moment donné, il se perd. Il se perd.
Oui, quand il est dans les bas-fonds de la capitale, du deuxième niveau.
Ça, c'est embêtant pour lui, parce que normalement, il sait où il va, mais... il est un peu perdu.
Mais cependant, la porte au numéro 6, il la trouve très vite. Hein.
Oui.
C'est ce qu'il cherche aussi, parce que c'est là qu'il va pouvoir passer à un niveau supérieur. Enfin, au niveau inférieur, en fait, puisqu'il va aller au niveau numéro 1.
Oui, et on va voir que le 6 est important, parce que c'est aussi un chiffre qui se retourne.
Oui, le chiffre 9 qu'on aperçoit à toute fin.
Et voilà, on voit que Moebius aime bien jouer
avec les signes.
Avec les signes et sur les signes aussi qui s'inversent. Mm. Donc, en fait, c'est la question que peut se poser le lecteur. Et c'est la question que Moebius se pose lui-même. Ça, c'est assez drôle. À un moment donné, donc, page 46, il dit « Que peut bien chercher le major Gruber dans les fangeux bas-fonds de la capitale ?» Donc, on voit que c'est les personnages qui sont en quête, tous. Le major Gruber sait où est-ce qu'il veut aller comment y aller. Mais qu'est-ce qu'il cherche, en fait ?
Il cherche à rejoindre le premier niveau, on le sait. Il cherche à savoir d'où vient le désordre qui agite son monde, son univers. Ouais. Et il soupçonne une vengeance bacalite. Apparemment, il a eu des bisbilles avec ce qu'il appelle des bacalites. On ne sait pas très bien ce que c'est, on ne le saura pas vraiment non plus. Et cette vengeance a l'air assez terrible. Parce apparemment, le bacalite veut la peau de Gruber. Et donc, il l'attire au premier niveau. En perturbant le fonctionnement des machines qui permettent la vie de ce garage.
En fait, le major Gruber est poursuivi, l'ingénieur Barnier est poursuivi.
Oui.
En fait, tous ces personnages, en quelque sorte, cherchent sur enquête, mais en même temps, ils fuient. Ils sont dans... Non ?
Tu crois que le major fuit ? Je crois que le major cherche à affronter, justement, son adversaire.
Il recherche son adversaire pour l'affronter.
Oui, c'est pour ça qu'il descend au premier niveau. Je pense qu'il va le chercher.
Il va le chercher. Ouais. Lui, il fuit pas.
Non. Pas l'impression, moi.
D'accord. Donc, voilà, c'est le trait de caractère du major Gruber. Un personnage, quand même, assez étrange, quand même. Comment on peut le qualifier, ce personnage ?
Ben, c'est un personnage assez ambigu, surtout quand on connaît un peu d'où il vient dans les autres histoires que Moebius a pu dessiner sur ses personnages, où c'est pas souvent un personnage assez détestable, pas toujours, hein, mais en général, c'est pas vraiment un personnage sympathique. Et là, il en fait vraiment le mythe qui soude l'univers du monde du garage hermétique.
Et qu'est-ce qu'il représente, en fait ? C'est un personnage quand même assez étrange.
C'est un démiurge. Il y a beaucoup de références aussi. C'est peut-être un chaman aussi, parce qu'il y a beaucoup de références à ce genre de choses. Par exemple, le Siguri, hein, le fameux vaisseau du major Gruber. Siguri, c'est un rite du peyote que pratiquent les chamans Tarahumaras et qui permet de voir des mondes invisibles. Voilà. Il y a d'autres références. Il y a le Nagal aussi, dont tu peux parler aussi, qui est aussi une référence au mythe méso-amérindien.
Ouais. Mais il faut quand même dire à nos auditeurs qui n'ont jamais lu Moebius et qui n'ont jamais vu le major Gruber, comment il se présente, en fait.
En colonialiste, il a son casque à pointe, colon, il est habillé comme un colon qui vient d'Afrique. Il ressemble vraiment à ces espèces d'aventuriers la fin du 19e, début 20e. Quoi.
En quoi il pourrait être un chaman, ce colonialiste ?
Ben, c'est un créateur de monde.
Voilà.
Et il a accès à un monde qu'il a créé lui-même.
Donc, en fait, Moebius joue tout le temps entre le mythe, l'histoire, et en quelque sorte aussi le fantasme le plus pur.
Mm-hmm.
Hein, puisque le major Gruber, c'est à la fois donc, une référence à l'histoire coloniale, mm-hmm. mais en même temps aussi, par ses pouvoirs, à... au mythe aux puissances de ceux qui ont été colonisés, en quelque sorte.
Les méso-amérindiens, oui, en l'occurrence.
Il y a une espèce d'inversion à travers ce personnage, à la fois ce que peut représenter le colon, mais aussi le colonisé.
Tout à fait, oui.
Oui, ben, Alain.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
À bientôt.
Bonsoir tout le monde.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur ?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie ? pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.